Le revenu de solidarité active a été voté en décembre 2008, mis en œuvre le 1er juin 2019. Il est versé à 1 840 000 personnes et risque de se voir remplacé par un autre dispositif pour à peu près les mêmes raisons qu'il a lui-même remplacé le RMI, le revenu minimum d'insertion. Quand le RMI a été créé il y a 30 ans, il n'a jamais été question d'en faire un revenu inconditionnel. L'idée, c'était que ce revenu de 2000 francs à l'époque, 500 euros, permette de trouver une activité. Écoutez Michel Rocard, alors Premier ministre, quand il a défendu le RMI à l'Assemblée en 1998.
Le montant sera insuffisant au regard du support du peuple, mais il offrira à tous ceux qui en disposeront une nouvelle chance d'échapper à la misère, une chance de retrouver sa place dans le monde des autres. C'est pourquoi le revenu minimum doit être étroitement lié à un effort d'insertion.
Chercher à s'insérer, retrouver un travail, donc, c'était déjà dans les obligations des RMistes. Mais, leur nombre grandissant, il a bien fallu constater que le RMI, plus qu'un marchepied vers le travail, était avant tout un revenu de subsistance. Les politiques auraient alors pu considérer que ce revenu restait légitime pour réduire la pauvreté. Mais non, ils se sont dit, à droite comme à gauche, que ce RMI était mal fichu car il décourageait la reprise du travail. Alors, on a créé le RSA, le revenu de solidarité active, qui devait garantir que la reprise d'une activité, même minime, soit toujours plus avantageuse que l'inactivité. 10 ans plus tard, on constate que le nombre d'allocataires a augmenté depuis la création du RSA. Le coût du dispositif aussi, on est proche de 11 milliards d'euros. Mais ce n'est pas cet argument financier qu'a utilisé le président de la République en septembre dernier quand il a annoncé la fin prochaine du RSA au profit d'un revenu universel d'activité. Ce revenu ne serait pas universel, car toujours sous condition de ressources, mais il serait plus simple et surtout plus facile à toucher.
En fusionnant le plus grand nombre des prestations sociales, du RSA aux APL, nous pourrons enfin garantir un socle minimal de dignité à tous ceux qui doivent en bénéficier, en apportant enfin une réponse à la hauteur du non-recours au droit.
Un tiers des personnes qui pourraient toucher le RSA ne le demandent pas. C'est ça qu'on appelle le non-recours. Ce n'est pas nouveau et pas spécifique au RSA. La Caisse nationale des allocations familiales s'en préoccupe depuis les années 70 et en 2002, un observatoire des non-recours aux droits et services a été créé par des chercheurs à l'Université de Grenoble. Mais c'est seulement en 2011 que ce concept de non-recours a été diffusé dans les médias, justement à l'occasion d'un bilan fait sur le RSA. Un tiers de non-recours pour le RSA, le chiffre n'a pas changé depuis car il n'y a pas d'estimation plus récente. C'est toujours la même étude que l'on cite, une étude quantitative menée auprès de 15 000 foyers éligibles au RSA. Plusieurs rapports ont depuis recommandé d'affiner cette mesure et de publier des chiffres plus réguliers, mais c'est complexe de quantifier le non-recours car il faut évaluer le nombre de personnes éligibles à une aide, à une autre aide, puis croiser des fichiers. La fusion des aides annoncée par Emmanuel Macron n'est pas moins complexe à réaliser sur le plan organisationnel comme sur le plan financier. Le risque, bien sûr, c'est qu'il y ait des perdants. On estime à environ 3 milliards d'euros l'argent qui est économisé chaque année par l'État du fait du non-recours sur le RSA. Si on réduit le non-recours, on va mécaniquement augmenter les dépenses sociales, ce qui n'est pas l'ambition affichée de ce gouvernement ni du président de la République dont on sait qu'il considère que les prestations sociales coûtent un pognon de dingue.